La tête. La tête. Tête. Oh. Oh.
Tête, tête, tête.
Alerte sur les coraux, ces animaux sont en danger. Car oui, les coraux sont des animaux dotés d'un squelette calcaire externe qui s'accumule jusqu'à former des récifs. Et ça fait maintenant des années, hélas, que les biologistes marins tirent la sonnette d'alarme concernant la dégradation de ces écosystèmes. Et c'est aux hommes, aux effets du changement climatique, que l'on doit aujourd'hui le mauvais état des récifs coralliens. Le réchauffement, l'acidification des océans sont la cause principale de la menace qui pèse sur les coraux. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'océan 2, demain et de l'année internationale pour les récifs coralliens en cours, l'UNESCO à Paris présente une exposition photographique grand format et immersive au cœur de ces récifs. C'est l'occasion pour la tête au carré de plonger ensemble, de mettre en lumière donc ces organismes marins indispensables à la vie et de comprendre quels sont leurs mécanismes biologiques. On en parle avec mes invités et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé d'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à la une de la science? Oui, on part vers Pluton, oui. L'ex-planète du système solaire.
Et oui, car la sonde New Horizon de la NASA vient de débusquer des dunes sur cette planète naine. On parcourt donc un désert de méthane froid avec le planétologue François Forget dans un instant.
Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui au congrès annuel des cancérologues américains qui vient de se terminer à Chicago. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Hannibal Wachi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les récifs coralliens, ce sera le dossier dans un instant avec mes invités que je salue, le biologiste marin Bernard Salva et le photographe sous-marin Alexis Rosenfeld. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Bernard Salva, les mauvaises nouvelles se suivent pour les récifs coralliens, en tout cas ce qu'on reçoit régulièrement. Est-ce qu'on peut encore agir vraiment pour les sauver? On a vraiment les outils, la capacité de le faire?
Oui, certainement. En tous les cas, il faut essayer, mais c'est surtout les rejets de gaz à effet de serre sur lesquels le citoyen a peu de moyens d'agir, parce que ça se passe à un espace à un niveau mondial ou global. Mais en revanche, ce sur quoi nous pouvons agir, c'est une meilleure gestion des récifs coralliens, de façon à ce qu'ils soient en meilleure santé pour affronter les changements climatiques.
Ouais. Alexis Rosenfeld, montrer la beauté des coraux, c'est une façon finalement de s'engager aussi pour leur protection?
C'est une photo, c'est une solution pour s'engager, c'est aussi de sensibiliser le grand public et de les amener à avoir conscience de l'importance qu'ils ont sur ce travail photojournalistique. Mmh. Produit pendant 2 ans, c'est le message avec Alexis Valois qu'on a voulu passer.
Et on ira donc à l'UNESCO devant les grilles, entre autres, pour voir ces photos grand format. On va se retrouver donc dans un instant pour évoquer ces récifs coralliens et vous répondrez au message des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Comment des dunes peuvent se former sur la planète naine Pluton? Une énigme élégante que viennent de dénouer des chercheurs français et américains, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Où commencent, où finissent ces terres arides et tourmentées, ces terres inhospitalières, des dunes et ces courbes permanentes, œuvre du vent, de dune en dune, de courbe en courbe? C'est le vent qui sculpte les déserts.
Voilà, c'est une description là du Sahara dans un documentaire de 1973, mais qui s'applique parfaitement au paysage de Pluton. Depuis son survol de la planète naine en 2015, la sonde New Horizon a permis de dévoiler de nombreux paysages uniques, autant de clichés que d'énigmes d'ailleurs pour les planétologues. Et aujourd'hui, ce sont des dunes de méthane, dont la température ne dépasse pas les moins 236 degrés, qui sont dévoilées par la NASA. Et Axel, on parcourt ce désert avec un des auteurs français de ce travail, publié dans la revue Science.
Oui Mathieu, et nous sommes au téléphone avec le Centre Européen de Technologie Spatiale de Noordwijk aux Pays-Bas avec le planétologue François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace et vous êtes membre de cette équipe de New Horizon. Alors pourquoi est-ce que quand vous avez découvert sur ces photos prises en 2015 des structures qui ressemblaient à des dunes, vous avez tous été très surpris?
Oui, parce que on s'attendait pas à ce qu'il y ait des dunes vu que la pression sur Pluton est 100 000 fois plus faible que sur Terre. On a une atmosphère extrêmement ténue. Alors heureusement, comme il fait très très froid, l'atmosphère est un peu plus dense, si vous voulez. Quand l'air est plus froid, il est plus dense. Et puis la gravité est plus faible, donc ça pouvait contribuer à expliquer un petit peu. Malgré tout, ça reste une atmosphère tellement fine que si vous promeniez sur Pluton dans un scaphandre, même quand le vent est au plus fort, vous ne sentirez rien du tout. Oui. Alors on a été surpris, mais effectivement, on a pu mener l'enquête et montrer que c'était probablement des dunes.
Alors sur Terre, quels sont les mécanismes qui entraînent du coup la formation des grandes dunes de sable qu'on connaît par exemple au Sahara ?
Oui, sur Terre, tout le monde connaît ça. C'est simplement le vent souffle sur le sable. Donc, il est un petit peu mis en mouvement, parfois en roulant à la surface, voire en étant soulevé dans l'atmosphère. Et puis, il suffit qu'une petite crête se forme. Les grains vont s'accumuler du côté amont. Et puis, à force, ça va augmenter. Puis, côté aval, vous avez tous déjà vu ça. Ça fait une espèce de pente où il y a régulièrement des petites avalanches au fur et à mesure que le sable s'accumule côté amont. Et puis, voilà, ça fait des dunes.
Alors, qu'est-ce qui manquait sur Pluton pour que vous ayez pris conscience que ce soit des dunes du premier coup d'œil?
Alors, la première chose, c'est qu'encore une fois, l'atmosphère est tellement fine, tellement ténue qu'elle n'est pas normalement capable de transporter des particules de quelques millimètres, et surtout, elle n'est pas du tout capable de les soulever. L'image, si vous voulez, c'est si vous prenez une assiette avec de la farine, vous la mettez dans votre jardin. À la limite, si vous tapez dedans, vous allez voir les grains de farine faire une espèce de fumée et être transportés par l'atmosphère. Pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de vent, pas beaucoup d'atmosphère. Par contre, pour soulever, là, il faut beaucoup de vent. Alors, on a pu montrer que l'air était suffisamment dense pour transporter les grains de méthane et c'est surtout résoudre l'énigme du soulèvement qui n'était pas facile. L'autre point, c'est que sur Pluton, on voit beaucoup de choses qui sont quand même très bizarres. C'est très exotique, Pluton. Et des choses qui ressemblent à des dunes avec des crêtes et des vallées, vous voyez, régulièrement espacées, on en voit ailleurs. Et là, on attribue ça à des figures liées à la sublimation et la condensation des glaces. Et ça fait aussi des formes similaires. Mais là, dans ce cas précis, ça ne collait pas parce que les dunes, elles tournent. Elles sont pas toujours dans la même direction. D'habitude, c'est contrôlé par, vous voyez, l'éclairage du soleil. Donc, normalement, c'est perpendiculaire au soleil, etc. Là, ça tourne avec apparemment la direction du vent. Donc, on avait vraiment l'impression de voir des dunes.
Est-ce que vous avez été capable d'estimer la taille de ces dunes sur Pluton ?
Oui, typiquement, en longueur, elles font entre quelques centaines de mètres et un kilomètre. En longueur, c'est-à-dire l'écart entre chaque crête, vous voyez ? Et c'est pas facile de mesurer la hauteur, mais on comprend que c'est quelques dizaines de mètres au plus, quoi.
Est-ce que François Forget, les dunes, c'est quelque chose de fréquent dans le système solaire ?
Ah oui, il y en a partout. Enfin, dès qu'il y a une atmosphère, il y en a bien sûr sur Terre, il y en a bien sûr sur Mars, n'importe qui a déjà vu un peu des images sur Mars particulier. Vous voyez, quand on voit les images prises par les rovers qui circulent à la surface, partout, là, on voit des accumulations de sable en forme de dunes. On en a aussi vu des très très belles sur Titan. Alors c'est très exotique parce que ce sont des dunes constituées non pas de sable mais de polymères organiques. C'est caractéristique à Titan. Et puis là, dans ce cas, on est sur Pluton. Avec de la glace de méthane.
Et justement, est-ce que le fait qu'on retrouve ces formes, ces structures un peu partout, dans des mondes avec des conditions extrêmes très différentes, c'est quelque chose d'intéressant pour vous ? C'est un invariant qui vous permet de travailler ?
Ouais, tout à fait. Alors, déjà, c'est intéressant parce que c'est très passionnant pour un chercheur, un physicien, de voir comment la nature, selon les conditions, les matériaux, les températures, etc., va appliquer, entre guillemets, les règles de la physique et de la chimie. Mais en particulier, moi, personnellement, je travaille dans un institut qui étudie le climat en général, et notamment le climat de la Terre. Et étudier les dunes, ça paraît rien, mais en fait, la distance entre les dunes que j'évoquais tout à l'heure, c'est contrôlé par les caractéristiques de la turbulence et de la convection dans la couche limite. Or, ça, c'est un sujet très important sur Terre, parce que c'est ça qui contrôle le comportement des nuages. Et le comportement des nuages, c'est la grande incertitude dans notre compréhension de l'avenir de la Terre, du changement climatique. Et donc finalement, en étudiant bêtement juste l'écart des dunes sur d'autres mondes aussi différents que Pluton, eh ben, on teste nos théories, nos outils, nos modèles ailleurs et on voit si on comprend bien ce qui se passe.
Tout ça grâce à quelques photos de la sonde New Horizon. D'ailleurs, quelle est la prochaine destination ? Quelles sont les prochaines photos qui vont vous permettre de travailler ?
Alors, on a... Vous savez peut-être que quand New Horizons a survolé Pluton en juillet 2015, et après il nous a fallu des mois et des mois pour récupérer toutes les images. Bon, maintenant on a tout reçu. Et la prochaine destination, bien Pluton, New Horizons n'a pas terminé sa mission. On a réorienté la sonde vers un corps qui a été découvert il y a quelques années par Hubble, et qui s'appelait, dans notre jargon, on l'appelait MU69. On vient de le rebaptiser Ultima Thule. Et donc c'est un petit monde, hein. C'est quand même, c'est environ une 30-40 km de diamètre, très très lointain, l'objet le plus lointain jamais observé, et New Horizons va le survoler à quelques centaines, enfin plutôt quelques milliers de kilomètres. On a ajusté la distance pour que la caméra soit le plus efficace possible, et ce sera dans la nuit, en fait le matin du réveillon du 1er janvier 2019.
Ah, magnifique, effectivement. Oui. François Forget, Pluton intéresse toujours finalement, malgré son déclassement de la liste des planètes, hein, c'est ça?
Oui, bah, le déclassement, pour nous, ça n'a pas de sens. Au sens, je ne suis pas pour ou contre ça. Mais disons que c'est un petit peu comme si, vous voyez, on avait autrefois appelé l'Australie un continent, et puis un jour, un comité avait décidé de le débaptiser et dire que c'était juste une île. Ça, pour les kangourous, ça change rien, et pour nous, les planétologues, ça change pas grand-chose. Malgré tout, ce qu'on a vu avec New Horizons, c'est que Pluton était un monde extrêmement actif, extrêmement riche, avec une grosse lune, Charon, c'est tout un système. C'est le représentant d'une immense population de corps au-delà de l'orbite de Neptune, qu'on a découvert finalement que récemment. C'est pour ça qu'elle a été dégradée. En même temps, ça renforce son intérêt. Donc elle a été dégradée pour des bonnes raisons. Au lieu d'être un objet bizarre tout seul qui était une planète, c'est une planète naine peut-être, mais qui est l'ambassadrice d'une immense population très très intéressante.
Voilà, déclassée en 2006 en l'occurrence pour Pluton. Merci beaucoup François Forget pour ces explications depuis les Pays-Bas. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il y a 541 millions d'années, un petit animal arpentait la Terre et y a laissé ses traces, ce qui a permis à une équipe chinoise de mettre au jour les plus anciennes empreintes fossilisées connues. La créature en question n'a pas été identifiée car aucun fossile n'a été retrouvé près de ses marques. Mais les chercheurs pensent que l'animal présentait une symétrie bilatérale. Il y a fort à parier qu'il s'agissait là d'un ancêtre des arthropodes, regroupant les insectes ou les crustacés, ou des tétrapodes de la classe des reptiles. Le couscous, c'est un plat oriental qui s'apprécie à travers le monde, mais c'est aussi une espèce menacée de marsupial de l'île indonésienne des Célèbes. Et bonne nouvelle pour les couscous, pour la première fois, un individu est né en captivité. Pour l'heure, les équipes du zoo de Wrocław, en Pologne, observent de loin le petit animal s'aventurer hors de la poche de sa maman. On ne connaît ni son sexe ni son nom, mais sa naissance ravit tout le monde. Un espoir pour cette espèce dont la population devrait diminuer de 30% dans la décennie à venir à cause de la chasse et de la déforestation. Et puis pour terminer, un atlas génétique de notre sang. Une équipe internationale coordonnée par l'université de Cambridge s'est lancée dans la compilation des codes génétiques de toutes les protéines qui circulent dans nos veines et donc dans notre corps. En l'occurrence, ils en ont scanné 3600 grâce à cette publication qui vient de paraître. Ils comptent aider la recherche sur de nombreux types de maladies en permettant de croiser les données. Un travail rendu possible par les avancées dans le domaine du séquençage haute vitesse et qui vient de paraître dans la revue Nature.